tout de suite, c'est le nouveau rendez-vous. Et comme chaque lundi, on vous donne d'abord un avant-goût de ce qui vous attend cette semaine. Invité, sujet, tout est dans la bande-annonce.
One. That's life. They don't care if women die.
Two.
Ils arrivent, les Allemands.
Oui, les Allemands. Évidemment, les Allemands.
Three.
C'est ça le fantastique, et c'est d'imaginer que tout est possible, de c'est merveilleux le rêve en fait.
You're a fool, Harry Potter, and you will lose everything.
Je voudrais vous faire rêver en vous racontant la première rencontre avec ma femme. Oh, la première fois que je l'ai invitée au restaurant, elle a commandé un steak frites. Elle a juste demandé si on pouvait remplacer le steak par du poisson et les frites par de la salade. Oui, ça s'appelle le menucheuse.
C'est pas bien le jambon?
Bah non, c'est pas bien. Évidemment que c'est pas bien.
Bah t'en as jamais mangé cachère, de toute manière, non?
Dîner à Montréal, c'est une histoire de retrouvailles. Deux amants qui se retrouvent, par hasard, ou presque.
Please stay there. Please, come on.
18 ans après leur séparation, une séparation qui s'est faite sans réelle explication.
Come on, please. Come on, stay there, man! Just fucking listen to me!
Faut marquer une pause. Faut savoir débrayer de temps en temps, chef. Sinon, on craque.
Programme chargé encore cette semaine. La Pologne des années 40 pour Elise Otzenberger et Mélodie Mouret, ce sera demain. BD avec le King Kong de Christophe Blain, mercredi. BD encore avec Blutch, jeudi. Jeudi aussi des histoires de chevaux et de détenus pour Laure de Clermont-Tonnerre qui signe son premier film Nevada. Et dans le Énervé la suite, on va rire au point virgule mercredi. On va péter les plombs demain avec un sujet burn-out au travail. Mais tout de suite, on retrouve nos invités, Ralph Fiennes et Philippe Besson. Générique.
Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Énervé, l'émission qui compte double chaque soir. C'est gagnant dès 18h en avant-première sur franceinter.fr en podcast et puis 22h jusqu'à minuit à l'antenne comme tout le monde. Ce soir, une émission danse avec les stars, avec Ralph Fiennes qui signe Nouréef, le Corbeau Blanc, troisième film pour cet acteur réalisateur. Voldemort dans Harry Potter, le patient anglais, c'est encore lui. Aujourd'hui, il revient sur le parcours d'un danseur artiste hors norme qui trahit en 1961 l'URSS pour rester en Europe et défendre son art. Philippe Besson est avec nous ce soir avec un nouveau roman, Un dîner à Montréal, unité de temps, de lieu et d'action pour un règlement de compte 40 ans plus tard entre deux hommes qui se sont aimés en 1989. Philippe Besson joue la carte de l'autofiction, histoire de se résoudre vraiment aux adieux. Et dans le Énervé la suite ce soir, dossier avortement, retour à la case départ, Christophe Bourseiller.
Bah oui, il y a un petit côté règlement de compte aussi dans ce qui se passe vis-à-vis de l'avortement aussi. On l'a vu en Alabama, en Géorgie et dans d'autres lieux, ce retour en arrière. Alors pour parler de tout ça, il y aura plein de gens. Un monde fou grâce à vous.
Grâce à vous aussi.
Une foule passionnante qui a bravé le jour férié pour venir. Caroline Mécari, avocate, auteure d'un livre PMA-GPA qui vient de sortir au PUF. Marie-Cécile Nave qui est journaliste. Daniel Borillo qui est juriste, professeur de droit. Il a sorti « Disposer de son corps, un droit encore à conquérir ». Catherine Soula, elle, c'est un médecin qui pratique des IVG. Et il y aura Émile Duport, influenceur chrétien et porte-parole des survivants. Lui, il est évidemment anti-avortement.
Eh bien, le Énervé, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Direction Montréal avec vous, Philippe Besson, pour un dîner. C'est le cadre unité de lieu d'action de votre nouveau roman chez Julliard. Un roman qui fait suite immédiatement au précédent, un certain Paul Darigrand. Ça commence presque comme une série. On replante le décor. Le précédent, c'était...
J'étais étudiant en 1989 à Bordeaux et je rencontre, lors de cette dernière année d'études, un jeune homme assez insaisissable qui s'appelle Paul Darigrand, dont je vais tomber fou amoureux parce qu'il est assez irrésistible. Au même moment, je vais aussi tomber malade, sachant que l'un et l'autre, d'ailleurs, des événements sont peut-être liés. Sauf que cet homme a une particularité, c'est qu'il est marié, donc indisponible. Et je vais donc me consumer dans cette espèce d'amour qui est voué à être inabouti, inaccompli.
Le roman, donc, c'est juste ce qui se passe après l'avoir retrouvé à Montréal quelques années plus tard, en 2007. Quand vous écrivez un certain Paul Darigrand, vous saviez qu'il y aurait la suite?
Non. Non, vraiment non.
Ah ouais?
Oui. Après avoir terminé Paul Darigrand, je n'ai pas imaginé tout de suite que j'allais raconter ce qui s'était passé le soir même dans ce fameux dîner. En revanche, ce qui est drôle, c'est que j'ai imaginé, il y a de ça, peut-être, je sais pas, 10 ans, écrire ce dîner, parce que c'est un dispositif assez étonnant et cette scène m'est restée quand même, sous forme théâtrale. J'avais essayé d'écrire une pièce de théâtre autour de ça et j'y étais pas arrivé. Et puis finalement, après avoir écrit Paul Darigrand, je me suis dit, ça y est, j'ai compris comment peut-être je peux le faire maintenant, ça sera sous forme romanesque donc. Et je me suis lancé dans l'écriture et c'est revenu, la mémoire m'est revenue de manière très très exacte. Enfin voilà, c'était très précis dans mon esprit, donc c'est comme ça que c'est arrivé.
Tout ce qui s'est joué ce jour-là. Donc c'est un roman qui revient sur un amour de 89. Paul vous avait quitté, disons que Paul avait quitté le narrateur complètement dévasté. Il l'avait quitté pour construire sa vie avec sa femme Isabelle. Paul aujourd'hui est toujours marié. Il a 40 ans, il a un enfant. Vous êtes de passage à Montréal pour présenter votre livre « Se résoudre aux adieux ». Le titre est particulièrement bien choisi. On est en 2007, juste avant de se taper Sarko. C'est ce que dit un des personnages du livre, Antoine, le nouvel amant du narrateur. Bref, Paul a vu dans le journal que vous étiez de passage dans sa ville. Dans une librairie, il décide de s'y rendre pour vous voir. Et là, vous lui proposez de dîner à quatre. Vous et Antoine, lui et Isabelle. Et le roman est le récit de ce dîner où se règlent des comptes avec des non-dits, le retour du refoulé. Le livre est une dissection précise des mots qui engagent chacun des protagonistes. Tous ces mots, vous les aviez précisément ?
Oui, j'avais rien
oublié. Ça vous avait marqué, ce dîner ?
Faut dire que c'était assez marquant. Oui. Le dispositif était étrange. C'est vrai que d'abord retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 18 ans, c'est toujours assez étonnant. C'est quand c'est inattendu, parce qu'il s'est planté là devant moi dans cette librairie à Montréal. Je lui ai proposé le dîner dans la foulée. Et c'est vrai que voilà, j'étais déjà décontenancé, dérouté par ce retour inopiné. Ensuite, la configuration, c'est-à-dire lui avec son épouse, moi avec mon amoureux de l'époque. Donc là aussi, ça s'apprêtait à une sorte de confusion des sentiments, on va dire. Et puis voilà, il y a tout d'un coup des questions existentielles surgissent. C'est-à-dire, c'était pas juste un petit dîner anodin. Ça vous oblige à vous dire qu'est-ce que j'ai fait de ma jeunesse, qu'est-ce que j'ai fait de mes 20 ans, est-ce que je l'ai trahi cette jeunesse, ou est-ce que j'en ai tenu les promesses, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie aussi, il s'est écoulé 20 ans, et est-ce que finalement, à 40 ans, je peux être content de moi ou pas, sachant que l'un est devenu écrivain, un peu saltimbanque, mais qu'il a visiblement une vie affective assez instable, ça c'est moi. L'autre s'est embourgeoisé, mais aussi il a gagné sans doute en sérénité, en plénitude. Il a assis une forme d'autorité quand même.
Il a construit ce qu'on appelle construit une vie.
Absolument. Et c'est pas méprisable du tout. Donc du coup, lequel envie la vie de l'autre au fond. Il y a ça aussi qui est posé au cœur de ce dîner. Et puis en même temps, comme c'est un dîner à quatre, évidemment le souvenir des amours ne peut être évoqué que de manière elliptique, par des nuances, des regards appuyés par des non-dits, par des allusions, etc. Jusqu'à ce qu'à un moment il faille que tout soit posé sur la table. Et quand tout est posé sur la table, là, c'est le temps du bilan.
Le livre est aussi l'occasion de revenir sur le parcours du narrateur, devenu donc écrivain à succès, sur ses amours, sa solitude, son goût pour les hommes qui partent, son goût assumé pour la jeunesse. C'est votre côté Yann Moix version gay. Parce que vous y allez bien.
Ouais.
C'est le narrateur.
Ouais,
c'est le narrateur.
Non, mais je vais pas me cacher dans mon petit doigt. C'est vrai qu'il y a aussi cela néanmoins. C'est-à-dire que je pense que chez moi, il y a cette idée que très vite dans ma vie, il a été trop tard. C'est une phrase de Duras, et que j'ai eu le sentiment d'un irrémédiable assez rapidement dans ma vie, vraiment, que c'était déjà fichu, qu'à 20 ans c'était déjà fichu, et qu'au fond tout ce qui a suivi, c'était courir après cette jeunesse perdue, et puisque je ne pouvais plus moi l'incarner, l'être, cette jeunesse-là, il fallait que je la trouve chez quelqu'un d'autre. Et donc c'est vrai que je me suis dirigé souvent vers des gens, d'ailleurs pas forcément dans mes amours, mais aussi dans mes amitiés, dans mes inclinations, tout ça, vers des gens qui étaient plus jeunes que moi, parce que j'avais l'impression que ça me rattachait encore à cette forme d'insouciance, de vigueur, de virtuosité, de possibles nombreux. Parce que je crois qu'évidemment, avec l'âge, les possibles se referment et puis le corps se flétrit, etc. Donc, j'ai couru après ça pendant longtemps, même dans mes livres. Je veux dire que cette passion de la jeunesse, elle est là. Donc je l'assume. J'en fais pas une gloire, c'est le moins qu'on puisse dire. Je trouve ça parfois un peu pathétique, parfois un peu tragique. Mais à partir du moment où vous faites ce genre de livre, il faut être lucide et il faut être sincère. Donc, je regarde cet homme de 40 ans que je suis devenu, et je dis oui, son goût pour la jeunesse est à la fois flamboyant et tragique.
Qu'est-ce que vous fait dire à l'âge de 20 ans que tout était déjà foutu ?
Je sais pas, peut-être justement ce que je racontais dans Paul Darigrand, c'est-à-dire la maladie m'avait mis du côté de la fragilité, du côté de la mort rôde, quoi. C'est pas si loin, ça peut s'arrêter vite, d'une certaine manière. Donc il y a ça, c'est une évidence. Et puis, je sais pas, l'idée que peut-être je ne plairai jamais, que je ne séduirai jamais. Voilà, on séduit quand on a 20 ans, par essence.
On séduit quand on est écrivain ?
Oui, mais c'est autre chose. Vous êtes aimé pour autre chose. Vous êtes aimé pour ce que vous faites ou pour ce qui émane de vous.
On est toujours aimé pour de bonnes raisons, Philippe Besson.
Ou de mauvaises. Est-ce que justement, on n'est pas aimé parce qu'on représente quelque chose? On se pose toujours cette question-là. Donc oui, très vite, j'ai eu cette idée que ça serait moins bien après. Ouais. Ça m'a pas quitté d'ailleurs, hein, mais ça n'empêche pas de vivre joyeux. Je suis léger, tout va bien. Je suis pas vu quelqu'un de déprimé.
Ah non, enfin, pas voilà. Vous avez été aimé parce que vous êtes écrivain et vous avez été quitté parce que vous êtes écrivain.
J'ai été aimé parce que je suis écrivain, mais pas que ça. J'ai été quitté, non, parce que je pense que je suis juste invivable.
Le livre, parce que je vous pose cette question, parce que le livre est aussi le point sur ce qui un jour a déclenché le passage à l'écriture, ouais. Une rupture amoureuse difficile. Bref, on est dans l'autofiction. Et c'est bien le problème quand on est auteur, et d'ailleurs le livre s'en fait l'écho, c'est que les lecteurs qui vous sont proches, les amis, les amants, la famille, recherchent toujours la réalité de ce qu'ils ont vécu avec vous dans vos livres. Mais c'est le prix à payer.
C'est le prix à payer. Ou pas. Oui, alors en même temps, c'est un peu c'est idiot. Je sais que effectivement les gens, quand vous écrivez de l'autofiction, cherchent à savoir si c'est eux ou pas eux. Et au fond, je pense que c'est vain, c'est une recherche vaine, ça ne sert à rien. Parce que même quand vous faites de l'autofiction, ma vocation, c'est pas de raconter ma vie, parce que ça n'a finalement aucun intérêt. Ma vocation, c'est d'être à l'intime, de raconter une vérité intime avec l'espoir que cette vérité intime fera écho à la vérité intime du lecteur. Je veux juste dire, quand je vous raconte ce qui m'est arrivé, ce qui m'a traversé, ce que j'ai éprouvé, les espérances, les grands moments d'éblouissement, mais aussi les frustrations, les manques, les désolations, tout ça, vous l'avez forcément vécu vous aussi. Et donc, cette écriture, elle est une écriture de fraternité. Je disais ça dans le précédent livre, quand j'ai lu Guibert la première fois dans ma vie à 20 ans, Guibert, il me connaissait pas, il savait pas qui j'étais, et puis Guibert, il écrivait sa vie, et pourtant je lisais la mienne dans ses premiers livres. Et donc, voilà, c'est ça que je veux faire. C'est pas de raconter quelque chose de moi, on s'en fiche. C'est de raconter quelque chose des gens.
Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'autofiction que vous travaillez depuis trois romans, même si elle était déjà présente hein, dans les autres, mais en tout cas là, elle est revendiquée comme forme littéraire. Si je rebondis sur ça, parce que vous venez de citer Guibert, c'est quelque chose qui a été travaillé par les homosexuels, Guibert, Dustan...
Mais pas que.
Non, par les femmes.
Par les femmes, absolument.
Oui, justement, Marguerite Duras. Christine Angot. Annie Ernaux,
absolument.
C'est-à-dire ce qu'on considère comme étant des minorités quand même. Comme si ça a été le moyen, à un moment donné, de pouvoir prendre la parole contre le roman, une certaine forme de roman.
Oui, je pense que
pour vous aussi.
Oui, je pense que c'est ça correspond à une réalité. Je pense que c'est ça, c'est se sentir dans une forme de minorité ou de marge et d'affirmer quelque chose par l'écriture de soi, oui.
Est-ce que vous pensez aussi que l'autofiction peut régler des comptes? Et quand je dis régler des comptes, il n'y a pas forcément quelque chose de péjoratif.
Alors, pour son versant péjoratif, non. C'est-à-dire, moi, je cherche à régler aucun compte. D'abord parce que j'ai pas de compte à régler, en fait. C'est terrible à dire, mais moi, j'ai pas de compte à régler avec mon enfance, mon adolescence ou les gens qui m'ont accompagné dans ma vie. Au contraire, j'ai plutôt de la gratitude, de la reconnaissance vis-à-vis de tous ceux que j'ai croisés dans ma vie, ma famille, mes amis, mes amours, etc. Bon, donc j'ai pas de ça à... Voilà. Par ailleurs, je pense pas que les livres vous guérissent de quoi que ce soit. Enfin, voilà, vaut mieux aller voir un médecin si on est malade, vous voyez, c'est plus efficace. En revanche, oui, je pense que c'est une façon quand même peut-être de mettre à distance quelques obsessions et de les regarder avec une forme de sincérité, justement, et de force. Ça donne de la force d'écrire, voilà.
Ça vous évite de faire une psychanalyse?
J'en fais pas, absolument.
Mais je sais, c'est marqué dans le roman. C'est pour ça que je vous pose cette question.
Oui, ouais. Je n'en fais pas. Alors peut-être que si j'écrivais pas de livre, j'en ferais une. Mon éditrice m'avait dit ça un jour. Elle m'avait dit, sans doute, si tu n'écrivais pas de livre, tu serais sous psychanalyse.
C'est vrai?
Ouais.
Elle vous avait dit ça?
Oui, absolument.
C'était qui votre éditrice?
Betty Mialet, on l'embrasse.
Ce matin dans la glace, je ne me reconnais pas. Quelles sont ses 5 pouces? Il est un très belle femme. Par cette petite secousse, comme une princesse qui tousse, je change de carapace. Il est un très belle femme. Anima animus, en moi se cherche le plus. Je suis bien plus que un. Le yin est dans le yang est dans le yin. Le yang est dans le yin, le yin est dans le yang. Le yin est dans le yang est dans le yin. Le yang est dans le yin, le yin est dans le yang. Oh, oh mes femmes, au milieu, sois toi-même. Être unique et précieux. Dans la glace, je ne me reconnais pas. Quels sont ses poils qui poussent? Elle est un très bel homme par ses petites secousses. geste qui pousse, je change de carapace. Elle est un très bel homme, anima animus. En moi se charge de plus, je suis bien plus que us. La yin est dans le yang est dans le yin. La yang est dans le yin est dans le yang. La yin est dans le yang est dans le yin. La yang est dans le yin est dans le yang. Oh, homme et femme au milieu, sois toi-même. Être unique et précieux.
Elle, d'Arthur H sur France Inter, il sera en concert près de chez vous avec le Cabaret Sauvage à Paris le 14 juin prochain.
NRV, le nouveau rendez-vous.
Un dîner à Montréal dans un café du village, c'est le quartier gay, elle l'avait bien choisi Isabelle, son restaurant. Un repas à quatre, vous et votre amant Antoine, plus jeune que vous. Paul, un ancien amant de 1989, aujourd'hui il a 40 ans, toujours bel homme, avec sa femme Isabelle. Un huis clos pour que quelque chose se dise sur le passé, une rupture amoureuse notamment, et aussi sur le statut de l'écrivain. Vous êtes là, à Montréal, pour signer à l'époque « Se résoudre aux adieux » en 2007. En 2007, quel écrivain étiez-vous ?
Oh mon Dieu, assez c'est différent de celui que je suis aujourd'hui, je pense. En fait, c'est assez douloureux d'ailleurs par moments, parce que je me dis je serais plus capable aujourd'hui d'écrire les livres que j'ai écrits il y a 10 ans ou 15 ans, parce que je suis plus le même homme en fait. Et ça m'attriste au sens... vraiment pas capable, techniquement pas capable de le faire. Parce que je sais pas, la vie m'a amené ailleurs, parce que mon écriture sans doute a changé, parce oui. que voilà, elle s'est simplifiée, elle s'est épurée d'une certaine manière, elle est plus à l'os aujourd'hui, elle est moins secourue par des histoires
fantômes,
romanesques ouais. et pas de choses comme ça. Bon, donc,
et des fantômes de Proust,
et des fantômes, absolument.
Des fantômes de Duras.
Oui, ouais. De Rimbaud, d'autres, ouais. etc. Donc c'est vrai que je suis plus cet homme-là, sans doute. Voilà, le temps a passé.
À partir de quand vous pensez que vous avez changé de style ?
Ça s'est fait imperceptiblement, finalement. Je n'ai pas eu le sentiment d'un changement. Cette métamorphose, elle s'est accomplie petit à petit, indépendamment de moi, sans doute, pour une large part. Parce que je m'observe finalement assez peu, enfin, on s'observe assez peu en train de vivre. Donc, je sais juste, avec le recul des années, que cet homme-là, ça n'est plus moi du tout.
Vous avez relu vos précédents romans ?
Non.
Pour écrire celui-ci ? Pour...
Non. Non, je relis jamais. Je relis jamais ce que j'écris. Jamais.
Et vous écrivez comment, justement ?
Alors, j'écris d'abord dans l'ordre où le lecteur va lire. C'est-à-dire, je ne suis pas un écrivain qui peut commencer par
plan.
La fin, le début,
avoir
le milieu, je ne sais pas quoi.
Ça,
je ne sais pas du tout. Alors ça,
tableau.
Je ne sais pas faire du tout. J'ai une idée assez précise de ce que je veux raconter quand je commence. Je connais la fin de l'histoire quand je commence. Donc, ça veut dire que je connais le but à atteindre. Je connais la trajectoire, d'une certaine manière. Donc, il me faut marcher sur ce chemin-là. J'écris vite, parce que je ne sais pas écrire dans la lenteur. Je ne sais pas écrire dans la difficulté. J'ai besoin que ça cool, que ça soit fluide, que ça jaillisse. Si c'est difficile, si je dois recommencer, corriger, refaire, c'est que c'était pas le livre que je devais écrire. Vraiment. Donc j'ai besoin de cette urgence, de cette facilité d'une certaine manière. J'ai besoin de penser qu'au moment où j'écris, c'est formidable. Peu importe que ça le soit ou pas. Mais je peux pas penser que, oui, toi, oh, allez, je recorrigerai après, on verra. Non. J'ai besoin d'être galvanisé, ébloui par ce que j'écris. Alors que c'est pas éblouissant, hein, qu'on me comprenne bien. Mais voilà, je suis porté par un truc. C'est comme ça que j'écris. Puis après, une fois que le livre existe, je le laisse reposer un peu et puis je le reprends. Et là, je l'épure encore. C'est-à-dire, j'enlève toute la mauvaise graisse, j'enlève le surpoids, j'enlève les redondances, les répétitions, les choses inutiles. Je l'allège. J'essaie de faire qu'il ne reste que l'essentiel.
Juste une question par rapport à ce personnage donc de Paul dans le roman. Quand vous écrivez ce nouveau roman qui parle de la relation que vous avez eue avec lui et du fait qu'il est... votre lecteur, parce que ça, vous le savez, il est votre lecteur. Vous pensez à lui ?
Je pense
parce
à...
que vous dites dans le roman que un romancier, un écrivain ne pense jamais à
non.
son lecteur.
Je ne pense pas
Et
à lui.
Je me suis demandé
je ne
pour
pense...
ce livre non. précisément.
En tout cas, je ne pense pas à lui aujourd'hui, au Paul d'aujourd'hui. Je pense au Paul qu'il fut. C'est-à-dire, j'ai besoin de me souvenir très précisément de celui qu'il a été. Donc, quand j'écris Dîner à Montréal, je nous revois dans le restaurant, je revois l'homme qu'il était, précisément, comment il était habillé, etc. Tout. En revanche, je ne pense pas à celui qu'il est aujourd'hui, en 2019. Ça, je ne sais pas du tout, je l'imagine pas, et je ne pense pas, du coup, à lui en train de lire ce livre-là. Pas du tout. Jamais. Il ne faut pas penser à la façon dont les livres vont être lus, sinon on ne les écrit pas. Donc il faut écrire dans une parfaite irresponsabilité, vraiment, des conséquences, il ne faut pas penser aux conséquences, et dans une grande innocence, d'une certaine manière, enfin, et dans un vertige.
Moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est le fait que dans ce couple que vous avez en face de vous, il y a elle et il y a lui, lui est votre lecteur, et elle, elle ne l'est pas.
Ouais,
et ça vous trouble.
Oui.
Mais pas pour de mauvaises raisons, pas pour des raisons narcissiques.
Non, c'est parce que je me dis, elle a vraiment...
Bien compris ce qui était en jeu dans les romans.
Absolument. Elle sait. Elle sait que son mari est dans les romans, que l'histoire que j'ai vécue avec son mari, elle est là, en filigrane, dans Le Garçon d'Italie ou ailleurs. Et donc, elle a repoussé ça pour ne pas avoir à le prendre en pleine face, j'imagine. Et puis parce qu'encore une fois, elle n'est pas dupe. Elle sait très bien de quoi il s'agit. Elle a une préscience et une connaissance des choses intimes beaucoup plus grande que nous tous, je pense.
On vous a demandé des sons, Philippe Besson, pour faire plus amplement connaissance, même si on se connaît quand même depuis pas mal d'années maintenant à vous lire. Premier son, il est politique.
Toutes les explications du monde ne justifieront pas qu'on ait pu livrer aux chiens l'honneur d'un homme et finalement sa vie au prix d'un double manquement de ses accusateurs aux lois fondamentales de notre République, celles qui protègent la dignité et la liberté de chacun d'entre nous.
Un son qui fait écho à la mort de Bérégovoy, de Pierre Bérégovoy.
Ce sont les obsèques de Pierre Bérégovoy, oui. Discours de Mitterrand, d'abord, j'ai une admiration folle pour Mitterrand, pour ce qu'il fut, pour la langue, c'est-à-dire il y a aussi, c'est lui qui écrit ce texte, qui est un texte magnifique. Et je suis ému par son émotion, c'est-à-dire que la voix se brise, cet homme dont on sait qu'il s'est tenu tout le temps, tout d'un coup, c'est comme s'il était submergé par quelque chose qu'il n'a pas su contrôler, pas su maîtriser. Et puis après, ce qui m'intéresse, c'est aussi le fond du discours, parce qu'on est en 93, et ça annonce déjà tout ce qui arrivera après, c'est-à-dire le fait que les intimités seront jetées en pâture, que vous serez sous les regards et qu'on vous jettera des anathèmes, des accusations, qu'elles soient fondées ou infondées. C'est ce qui attend après tous les personnages publics ou pas d'ailleurs, et ce qui a été multiplié aujourd'hui par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que l'honneur n'a aucune importance, on lance une accusation, peu importe qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, peu importe l'impact que ça aura sur les vies. Bérégovoy s'est tué à cause de ça quand même. Il y a un homme qui porte un pistolet à sa tempe à cause de ça. Donc il faut qu'on pense que parfois ce qu'on dit, ce qu'on écrit sur les gens, cette violence qui se manifeste à l'encontre de l'autre, d'autrui, elle peut avoir des conséquences terribles. Donc,
c'est ce que vous avez vécu vous aussi d'une certaine façon. Toute proportion gardée.
Moi, j'ai vécu des polémiques qui sont sans rapport avec ça.
Je rappelle votre nomination comme consul à Los Angeles qui a été annulée.
Oui, absolument.
Après des polémiques extrêmement violentes.
Alors, les polémiques ont été très violentes, mais je veux toujours dire qu'elles sont sans rapport avec ce qui s'était passé à l'époque. Je ne veux pas du tout comparer quoi que ce soit, ce qui est incomparable.
C'est moi qui le fais.
Oui, après, c'est vrai que c'est très étrange de se trouver, pour le coup, jeté aux chiens et couvert d'anathèmes et insulté. C'est assez curieux. Mais bizarrement, je vais vous dire, c'est ça qui est effrayant. C'est quand ça m'est arrivé. Ça m'a même pas surpris. Ça m'a blessé. Ça m'a fait du mal. Mais ça m'a pas surpris. Parce que je me dis, l'époque est ainsi. Elle recherche le buzz. On a le goût du sang. Et on chasse en meute. Donc c'est ça qu'est devenue l'époque. La chasse en meute, le goût du sang, la recherche du buzz. Tout ça s'est manifesté à ce moment-là et c'est en germe il y a déjà 25 ans. Les réseaux sociaux n'ont fait qu'amplifier ça, les chaînes info, le robinet à n'importe quoi, les égouts à ciel ouvert, etc. Tout ça est assez effrayant. Je trouve qu'il faut qu'on fasse attention, mais je me mets dedans, dans le « on fasse attention », à ce qu'on dit, parce que moi aussi je dis des choses. Et on n'a pas l'idée qu'on blesse à ce point-là les gens.
Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans les polémiques qui vous ont été adressées par cette nomination d'Emmanuel Macron ?
Au fond, ce qui m'a le plus blessé, c'est que à la première seconde, j'ai été déclaré incompétent et illégitime. On ne s'est jamais posé la question de savoir si, éventuellement, j'avais quelques dispositions pour exercer cette mission.
Au consulat de Los Angeles.
Je rappelle quand même que c'est une ville que je connais par cœur, parce que j'y vis plusieurs mois par an, que la problématique de cette circonscription est une problématique essentiellement culturelle. On adresse les industries créatives et culturelles de l'endroit, de la Californie. Donc, nommer un écrivain dans ce poste-là n'était pas forcément complètement absurde. Et c'est vrai que, d'emblée, j'ai été... tout ce que j'avais fait, les 30 ans de mon parcours professionnel, les 20 ans d'écriture, les 10 ans que j'avais fait avant, tout ça a été nié. Déconsidéré d'emblée, parce qu'il fallait que ce soit un scandale, cette nomination. Donc pour qu'elle soit un scandale, il fallait que je n'en ai pas les compétences. Parce que si vous vous disiez, juste une seconde, bah le type, il a l'air assez compétent et légitime, c'est fini, il n'y avait
oui,
plus rien.
Vous aviez écrit un roman sur Emmanuel Macron, c'était ça le et problème, alors, j'imagine. Ah non, non, alors, mais je vous pose...
Oui. Et alors, c'est-à-dire que, en quoi ça disqualifie? C'est ça le truc. Et puis par ailleurs, en général, quand un président de la République nomme un ambassadeur ou un consul, c'est assez rare qu'il nomme quelqu'un qui soit très 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 loin de lui. Le fait que nous nous connaissions n'était pas quelque chose qui pouvait me disqualifier.
Deuxième son pour vous, politique et littéraire avec elle.
Je crois que l'homme sera littéralement noyé dans une information constante sur son corps, sur son devenir corporel, sur sa santé, sur sa vie familiale, sur son salaire, sur son loisir. C'est pas loin du cauchemar. Il n'y aura plus personne pour lire. Ils verront de la télévision. On a des postes partout. Dans la cuisine, dans les water closets, dans le bureau, dans les rues. Et où sera-t-on? Tandis qu'on regarde la télévision, où est-on? On n'est pas seul.
Quelle Cassandre,
Marguerite Duras. En 85, elle raconte ça, elle parle en 85 de ce que serait l'an 2000. Et tout est là, ça a fait écho à ce qu'on a dit juste avant, c'est-à-dire nous sommes noyés sous l'information. Elle disait la télévision, finalement ce sont les écrans, mais Internet, etc. Tout est là, tout est dit. Quelle prémonition.
La curée, c'est déjà un titre qui a été pris par Zola. C'est quelque chose qui pourrait servir pour un prochain roman?
Non.
Bon, il n'y aura pas de ça.
Non.
Troisième son pour vous, un son de cinéma.
Les nouveaux?
Oui, il est avec moi.
Ça m'a l'air très mignon. Tu veux combien pour ça?
Celui-là, je ne le donne pas, je peux pas.
Pourquoi?
Je veux pas. C'est mon frère.
Et qu'est-ce qu'il te prend aujourd'hui?
C'est dingue, hein, c'est la voix de Gérard Depardieu qui absolument. Ne joue pas dans
non.
le film, qui double
Victor Hugo,
qui était une bombe.
Oui, absolument. L'homme blessé.
L'homme blessé.
Patrick Chéreau, un film de 83, scénario Chéreau-Guibert. Mm-hmm. Grand film, là aussi, j'ai 17 ans quand je le vois la première fois. Choc énorme, cinématographique, mais aussi personnel. Ça ramène aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, quand tout d'un coup, un film aussi vous raconte quelque chose de vous. Enfin, en tout cas, cette idée de la clandestinité, de l'homosexualité, de quelque chose qu'on doit cacher, et en même temps, le désir doit s'exprimer, on va le chercher, on va l'expérimenter dans des endroits un peu étranges. Il y a une sensualité, une brutalité dans ce film. Et puis, c'est le vrai début de Chéreau cinéaste. Mmh. Il a fait des films avant, mais peut-être
il
que c'est là.
Après, il en fera vous, après, avec
oui.
vous,
ouais. Mais fondamentalement, il y a quelque chose là qui explose. C'est un film sale et lumineux à la fois. Et puis Jean-Hugues Anglade, là aussi, sublime de beauté, éclatant de jeunesse, et en même temps dans une naïveté et dans un besoin d'exprimer son désir. Ça me marque, ça m'a beaucoup marqué ce film, vraiment.
Vous en avez parlé ensuite avec Chéreau quand vous l'avez rencontré?
Absolument, je lui ai dit que c'était sans doute son film le plus marquant quand je l'ai vu la première fois, pour moi. Alors que je considère que par exemple que Ceux qui m'aiment prendront le train sont un très grand film, que La Reine Margot aussi est un très grand film. Mais là, il y a quelque chose qui était à l'os, vous voyez, c'était... Précisément, comme s'il y avait le secours de rien d'autre. La Reine Margot, c'est très spectaculaire, vous avez une histoire, vous avez etc. Ceux qui m'aiment prendront le train, c'est un film choral, mouvementé, etc. Là, c'est presque juste au plus près des êtres, des corps, de la peau, de la sueur, du sang. Je trouve que c'est un film admirable.
C'est presque un commentaire pour le roman, un roman à l'os aussi. Dîner à Montréal, chez Julliard. Merci Philippe Besson.
Merci à vous.
Merci à vous.
eyes looking up I think I call off the chase. Who needs bands? I see you every day.
Barefoot in the Park, un extrait du dernier album du Canadien James Blake avec la bombe barcelonaise Rosalia. Mais tout de suite, on retrouve Ralph Fiennes dans une chambre d'hôtel à Paris. Et oui, on ne se refuse rien dans le énervé.
Rendez-vous.
Rudolf Nureyev.
French invented the ballet, but the energy always comes in from the east.
Laurent Goumard.
You take the stage.
He has to go to Soviet Union.
They're trying to kidnap me.
Rudy,
you have to say what you want.
Okay.
I want to be free.
Sur France Inter.
Une rapide évocation de ce Nureyev, Le Corbeau Blanc, c'est le troisième film comme réalisateur de Ralph Fiennes. On l'a connu bien sûr en Patient Anglais, en Voldemort, dans Harry Potter et j'en passe. Aujourd'hui, on reçoit le réalisateur de Passage à Paris. On l'a rencontré à son hôtel. Il a choisi de faire le portrait d'un artiste à un moment précis de sa vie, à un tournant. On est en juin 1961. Nureyev a 23 ans. Il demande l'asile politique à l'aéroport du Bourget. Il était à l'époque en pleine tournée en Europe, menacé par le KGB, qui exigeait son retour en URSS. Il va donc trahir son pays pour protéger son art. Alors la première question que je me suis posée en regardant le film sur Nureyev, c'était quel était le lien de Ralph Fiennes avec la danse ?
Well, I came to the project.
Eh bien, je suis arrivé à ce projet
because I was
parce que
moved by the character
j'étais ému
Nureyev.
Par le personnage
I came across
de
Nureyev.
Je suis tombé sur une biographie. J'avais très très peu de lien avec la danse. En fait, aucun. Et donc, mon chemin, c'était l'esprit de Nureyev. Et je l'ai lu dans cette biographie de Julie Cavanagh. Ce désir dans ce jeune garçon, ce jeune étudiant, non seulement de se pousser, se hisser, pour devenir danseur, mais sa faim pour toute forme d'art, pour se nourrir, venant d'un milieu extrêmement pauvre, avec quasiment pas d'éducation élaborée, cet esprit en lui, c'est à cela que je me suis relié. Et au cours du tournage de ce film, je me suis immergé dans la danse.
Vous filmez les années d'étudiant, sa détermination à devenir le premier, des heures à passer seul dans le studio, les visites au musée. Et vous-même, dans ces années-là, vous avez le rôle de son professeur de danse, Alexandre Pouchkine. Juste un mot sur ce personnage. Qu'est-ce qu'il représente pour que vous ayez choisi, vous, réalisateur, d'endosser ce rôle, le rôle d'un prof?
I worked with David Hare, who's the screenwriter.
J'étais avec David Hare, qui était le scénariste. La sagesse de Pushkin et son approche de Nureyev. Et
Pushkin was the right teacher for him.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que Nureyev avait senti que Pushkin était le bon prof pour lui. On en a débattu donc avec le scénariste à quel point on aimait ce personnage de Pushkin.
A gentle, wise figure,
d'être
in a way,
un personnage gentil, sage, qui guidait cet étudiant enflammé. Et quand David a écrit le premier jet, c'était un de ces personnages qu'il avait décrit. Mais moi, je ne voulais pas être acteur dans ce film. J'y ai résisté. J'ai réalisé deux autres films où j'ai été aussi acteur, et ça, c'était, je ne le voulais pas. Mais je sentais autour de moi les producteurs et les financiers potentiels qui disaient, mais si vous jouez le rôle de Pushkin, ça sera plus facile à financer. Et donc, à la fin des fins, lorsque le producteur russe m'a dit, Rafe, si tu veux des investisseurs russes, il faut que tu sois dans le film. Et donc, j'ai brisé mes propres règles parce que je voulais des acteurs russes. Moi, j'ai joué dans un film russe. Je parle un petit peu le russe. Mais bon, je m'y suis plié et j'ai décidé de jouer dans le film. Et ce qu'il représente, eh bien, c'est le personnage qui donne les bons conseils à Nureyev. C'est lui qui lui donne le sens le plus large de ce qu'est un artiste. Quel est le but de la danse? Quelle est ton histoire? Quel est ton resti? Quelle est la chose que toi tu as à dire? Qu'est-ce qui t'est essentiel, particulier?
Est-ce que vous-même vous avez rencontré un tel mentor dans votre parcours quand vous étiez étudiant? Est-ce qu'il y a eu une figure qui a été déterminante pour vous?
Non. En fait, c'est ma mère qui serait la plus proche de ce genre de figure. Une femme extrêmement sage. J'ai rencontré des enseignants qui m'ont influencé. Mais la voix de ma mère, ce sera celle-là qui m'a dit, qu'est-ce que tu tentes de dire? Un prof à mon école d'art, mon professeur de mouvement,
une femme,
her approach to movement,
son approche du mouvement était unique. C'est une femme extrêmement sage. Je pense souvent à elle parce qu'elle avait vraiment une vision plus large de l'intérêt de la chose. Pas simplement pour être un acteur, mais elle transmettait ce sens de quel est l'esprit que tu insuffles dans ton travail. C'est tout aussi important que ta technique ou ta capacité à analyser les choses.
Au-delà d'un portrait de Nureyev, c'est le portrait d'un jeune artiste, quelqu'un qui va devenir artiste à 23 ans. Vous, qui étiez-vous à 23 ans?
À 23 ans,
c'était ma dernière année d'école dramatique. Je crois que c'était mon premier travail professionnel en tant qu'acteur, en quittant l'école.
Alors, quel type d'acteur étiez-vous à cette époque-là?
J'étais ce genre d'acteur.
Moi,
j'aime Shakespeare. Mon premier travail, c'était dans un théâtre en plein air à Regent's Park. C'était vraiment un endroit extrêmement populaire pour des représentations populaires de Shakespeare. Ce n'était pas du tout un Shakespeare d'avant-garde, c'était très traditionnel, dirigé par un acteur, directeur charmant.
Yes, it was not sophisticated.
C'était pas très élaboré.
My ambition was to work with the Royal Shakespeare Company.
Mon ambition était de travailler avec la Shakespeare Company.
And I was not an actor looking at film.
Je n'étais pas un acteur qui recherchait le cinéma, non. Mon ambition était de jouer de façon idéale des premiers rôles shakespeariens sur des scènes nationales.
I think I was I have some facility with language.
Disons, j'ai quelques facilités avec la langue.
But I think other bits of my acting were a little retarded.
Les autres parties de ma façon de jouer n'étaient pas au top.
I did about 4 or 5 years in the theater.
J'ai travaillé 4 ou 5 ans au théâtre.
And I think I probably only when I was started doing film acting.
Et en fait, c'est lorsque j'ai commencé à jouer pour le cinéma.
I remember the requirement.
Je me souviens des exigences. Pour une vie intérieure qui n'avait pas besoin d'être projetée vers l'auditoire. Et ça, c'était vraiment une bouffée d'air pur. J'étais extrêmement curieux de la façon dont la vie intérieure pouvait s'installer dans un acteur sur scène. Et ces deux disciplines sont complémentaires l'une de l'autre.
Le film, c'est aussi un artiste à un moment crucial de sa vie. à un tournant. Hein, en étant 61, il va demander l'asile en France et il va devenir une star mondiale interdite de son pays. Vous, dans votre parcours, il y a eu un tournant à un moment donné?
No, I mean it's such a turning point. No, the only...
Non, un tel tournant, non.
And not, I can't think.
Non, je peux pas penser à
quelque chose. I just remember the clarity of
je me souviens de la clarté de ce dont je pense me souvenir quand vous me posez la question. Quand j'ai eu 18 ans, la clarté de la connaissance du fait que je voulais devenir acteur. Et quand j'ai lu la biographie de Nureyev que j'ai déjà mentionné, lui, il a eu ce sentiment beaucoup plus tôt, beaucoup plus jeune, la clarté du but.
Et
j'aime bien cela dans le film, quand il dit à Clara, sainte, mais il faut que tu aies un but dans la vie. Si tu n'as pas de but dans la vie, à quoi bon vivre? Je suis attiré par le sens de Nureyev pour avoir un but. Ça le rend monstrueux, mais ça le rend très beau également.
C'est le troisième film que vous faites. Je me suis demandé qu'est-ce qui vous a poussé, vous qui étiez un acteur de théâtre comblé, un acteur de cinéma très heureux, fêté, récompensé. Qu'est-ce qui vous a poussé à passer derrière la caméra? C'est-à-dire, si on reprend l'idée de Nureyev, qu'est-ce que vous vouliez raconter en passant derrière la caméra quand vous êtes devenu réalisateur?
Well, as I made more and more films as an actor,
en faisant de plus en plus de films en tant qu'acteur, je me suis retrouvé à être de plus en plus curieux de ce que je faisais, de ce dont j'étais parti. Et je faisais les plans, et puis quelqu'un d'autre prenait ces plans que j'avais tournés, et faisait quelque chose d'autre. Et j'étais devenu curieux de quel était le récit. Et soudain, je me suis retrouvé de façon positive, intéressé à ce que c'était de placer une caméra, de faire des choix. Et je crois que ça grandissait en moi.
Nureyev est aussi un homme hanté par ses origines. Dans le film, il le dit très précisément, il danse les princes, mais il n'en est pas un. Et c'est la danse qui va lui permettre de sortir de sa classe sociale et même de trahir à un moment son pays. Vous, quelle était la place de l'art et de la culture dans votre famille? J'ai l'impression que c'est à l'opposé exact de Nureyev.
C'était l'opposé, exactement.
Well, the thing is, his mother,
sa mère,
saw in him,
a vu en lui, je pense, son besoin. Une mère peut voir ce genre de choses. Et une mère saura quelle est l'éducation avec une intelligence naturelle, évidemment, avec de l'amour. Elle peut voir dans cet enfant cette chose dont elle sait qu'elle exige une réponse.
Moi,
nous étions six frères et sœurs et on a eu une mère qui a soutenu l'esprit de chacun de ses enfants. Et je dirais, avec prudence, que c'était semblable à la mère de Nureyev. Mais bon, vous avez raison. Ma mère était écrivain, elle était publiée, lue, une femme de culture. Nous n'étions pas riches du tout. Mon père luttait dans son travail. On a beaucoup déménagé, mais tout autour de nous, il y avait des livres, on pouvait s'exprimer par le dessin.
Oui.
C'était très, très différent.
Quand on regarde le film, on pense aussi à celui qui l'a fait, parce que quand on fait le film sur un artiste, c'est d'une certaine façon l'autoportrait du réalisateur à travers l'artiste qu'il a choisi. Et Nureyev est quelqu'un qui va défier son pays, qui va trahir son pays pour rester en Europe. Moi, je me demandais quel rapport vous entreteniez avec le vôtre à une période difficile avec le Brexit. Est-ce que vous vous sentez trahi par votre pays?
Well, interesting that you use this word betrayal because of course.
C'est intéressant que vous utilisiez ce terme trahir.
I don't think Nureyev betrayed himself.
Je ne pense pas que Nureyev se soit trahi lui-même.
Ah non, ouais.
And this is the key question.
Et c'est la question clé, je suppose.
The truth of oneself as an artist.
La vérité du moi en tant qu'artiste. Et à un moment critique, et c'est important si on en parle pour ce souvenir qui n'était pas du tout politisé. C'est pas Solzhenitsyn. Il veut simplement danser. Il a juste un caractère qui ne peut pas supporter les contraintes. À l'époque de Nureyev, quelle que soit l'horreur du système, le système était tellement fort qu'il tenait tout le monde. Il tenait tout le monde en place. Aujourd'hui, en Angleterre, notre système s'effondre. Il se divise. Il y a une division profonde que je n'aurais jamais pu anticiper au cours de ma vie. Ce pays se polarise à l'extrême. Mais vous posez la question si je me sens trahi. Non, je ne me sens pas trahi. Je pense qu'il y a tout un mélange de population d'un pays qui soit divisé au point que je peux comparer ça à la guerre civile qu'on a eue au XVIIe siècle. Et j'espère que ça ne va pas tourner et devenir un conflit, mais c'est un conflit aussi de différents idéalismes pour l'instant. Je n'ai pas honte de dire que j'aimerais qu'on reste en Europe. J'aimerais bien être fier de mon pays dans un contexte européen et rester anglais ou français et pas sentir que votre sens de la nation a été compromis ou dilué. Mais je crois que l'essence de l'Europe est quelque chose de bon. Et pour moi, ne pas être autour de la table, ne pas faire partie du débat de ce qu'est l'Europe, eh bien, c'est une grave erreur. Mais 50% du pays ne sera pas d'accord avec moi.
Nureyev, et d'ailleurs c'est le titre du film, était surnommé dans ses années d'étudiant le Corbeau Blanc.
Moi, j'ai entendu dire que le titre en français était très moche, le Corbeau Blanc. Pourquoi on ne peut pas l'appeler le White Crow, tout simplement? Beaucoup de gens ont dit, le distributeur a dit, ça, c'est très très moche en français. Et d'autres gens m'ont dit aussi, le Corbeau, c'est un film très très célèbre. Et bien voilà, ça va mener une confusion.
Bielaya Varona,
c'est en russe. C'est une expression qui signifie celui qui n'est pas normal, qui n'est pas habituel, le marginal. Moi, ça m'a donné un mal de tête en Russie parce que je voulais l'appeler Bieli Voron, qui signifiait en fait la corneille blanche. En fait, c'était une question linguistique extrêmement intéressante, parce que Bielaya Varona, en fait, ça semble être féminin en russe, mais ça s'applique à un mâle. Disney, qui est notre distributeur en Russie, a dit que, ça allait amener de la confusion, encore une fois. Et on m'a dit,
Bielaya Varona
a une dynamique beaucoup plus musclée. Bielaya Varona
c'est
un aspect plus vulnérable qui désignerait un marginal, mais négatif. Et donc, c'est pas ma langue maternelle, donc j'ai dû laisser la place.
C'est comme ça qu'on l'appelait, donc, le Corbeau Blanc. Vous aviez un surnom?
Ma mère m'appelait Rafe Rafe.
My father sometimes used my initials,
mon père
RNF.
Utilisait mes initiales, RNF.
RNF, come here.
RNF, viens par ici.
But my friends of mine,
mais mes copains m'appellent, dans ma vie adulte, m'appellent Riffraff, qui est c'est de l'argot pour la foule.
Riffraff,
ça veut dire le populo. On ne veut pas se mêler au populo. Riffraff.
Toute dernière question, on vous a déjà demandé de danser dans un film?
Oui, une sorte de danse dans le grand splash.
Vous étiez bon?
Have you seen it? No.
No. No, no. Sorry.
People are entertained by it.
Ça divertit les gens.
Nureyev, le Corbeau Blanc, va déployer ses ailes le 19 juin prochain. Alors on garde le rythme tout de suite, mais version rock avec les très énervés Arcade Fire. Le son d'Arcade Fire pour clore ce énervé première partie, car oui, c'est fini. Mais on se retrouve dans 15 minutes après le journal avec ça. Et oui, dossier avortement, retour à la case départ. Le rendez-vous est pris. Alors à tout de suite.